merci d'être présent pour passer un petit temps avec deux créateurs géants dans leur domaine. Et nous allons parler en fait de la confrontation de deux univers, à savoir effectivement comment on peut travailler en littérature tout en étant influencé par des images, puisqu'on vit dans un monde baigné d'images. On sait tous ici présents que les images ont un impact visuel fort et immédiat sur la conception de nos univers et notre conception personnelle. Donc, voir comment ces deux créateurs ont pu travailler ensemble, disons, par éditeur interposé, par projet interposé, comment faire coexister, disons, leurs deux univers pour qu'on aboutisse à des objets cohérents et qui, si possible, s'enrichissent mutuellement, en fait. Parce que je me doute bien que Laurent Siorac, à ma droite, donc lorsqu'il a travaillé sur les textes de Robin Hobb, elle-même les ayant vus, a peut-être été ensuite influencée pour amener autre chose dans ses propres créations. Donc, bonjour Robin, bonjour Laurent. On va parler tranquillement, disons, sur vos deux univers. Donc, la première question que j'ai envie de poser à tous les deux, c'est quelle est l'importance de l'image dans vos créations? Alors, forcément, en tant que dessinateur, bon dessiné, je me doute bien que tu vas me répondre qu'elle a une importance assez, assez forte. Mais j'ai envie quand même de savoir quelles sont les premières images qui auraient pu vraiment vous influencer si vous avez eu, disons, dans votre projet de création ou d'orientation professionnelle, en fait, si vous avez eu des images qui vous ont marqué, s'il y a eu des films, par exemple, à l'époque, et s'il y a eu des choses comme ça qui, visuellement, ont pu influencer votre choix de carrière. Okay.
Still in my home as a child. We had Edmund Dulac's ce comics là, spécial Strange 31-32 ou 31-32-33, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment une grosse claque parce que voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut en BD, on peut aller n'importe où, on peut tout faire, et ça a été vraiment une vraie révélation. Alors après, effectivement, il y a découverte d'autres illustrateurs, d'autres auteurs de bande dessinée. Il y a une image aussi dans le club Dorothée Cabu qui dessinait comme ça tous les jours à main levée, qui était c'était aussi ça très impressionnant pour le gamin qui avait une dizaine d'années que j'étais à l'époque. Et voilà, donc c'est un peu tout ça, c'est-à-dire vraiment de quelque chose de relativement large. Tu parles de la franco-belge très classique à du comics, puis maintenant voilà, ça va jusqu'au manga, etc. Mais c'est vrai que ça a été vraiment, je crois, le déclencheur pour ma passion du dessin. Et voilà, c'était la petite flamme qui a commencé, on va dire.
Alors je vais revenir, t'embêter avec d'autres questions là-dessus, un petit peu sur ta formation, un peu ton parcours. Mais avant, je voudrais poser une question à Robin, à savoir que je sais que tu es, toujours très attentive à comment les illustrateurs vont travailler sur ton univers et la satisfaction que tu as quand tu vois une couverture d'un de tes romans. Je sais que tu exprimes ta satisfaction lorsque l'illustration colle bien à ton univers, à la manière que tu as eu d'envisager. Est-ce que donc dans ta carrière, il y a eu des moments où une de ces illustrations, par exemple, en au sujet de la table ronde aujourd'hui. On ne va pas vous donner un béaba de comment scénariser un roman pour en faire une bande dessinée, puisque vous avez bien compris qu'on allait plus s'attarder à la création des deux univers, justement, et puis un petit peu à ce qui se passe plus dans la tête de ces deux artistes, plutôt que donner juste un step by step pour adapter un roman, ce qui est quand même un petit peu moins peut-être intéressant en tous les cas, ou peut-être pas forcément le sujet du jour finalement. Donc Laurent, au niveau de ta formation, en fait, je sais que tu étais a priori autodidacte, même si on m'a parlé vaguement d'une école des beaux-arts, que tu n'as peut-être pas terminé, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais est-ce que si tu as fait ce parcours des beaux-arts dont on parle, est-ce que tu l'as fait aussi en ayant l'intention de la bande dessinée ?
Alors en fait, effectivement, je suis autodidacte aux beaux-arts pendant 2 ans, après avoir fait une maîtrise de chimie physique, en fait. C'était à Marseille, et en fait, on traverse une rue, on passe de l'école de la fac des sciences à la fac des beaux-arts et d'architecture. Et effectivement, c'est quand j'ai autodidacte, on n'apprend pas réellement à dessiner, effectivement, aux beaux-arts, c'est pas le meilleur endroit pour apprendre, pas très peu souvent, très normalement. Mais il se trouve que ça m'a permis de rencontrer une personne qui montait sa boîte d'édition, et comme ça, j'ai fait mon premier album, en fait, au lieu de faire la 3e année de beaux-arts, tout simplement. Voilà.
Je sentais bien qu'effectivement, il n'y avait peut-être pas le cursus complet. Ça, tu as fait autodidacte. Lorsqu'on a un projet qui nous arrive, alors tu vas peut-être nous raconter un petit peu comment il est arrivé ce projet, mais est-ce que lorsqu'on entend par exemple Robin parler de l'importance de ces images, autant celles qu'elle suscite que celles qu'elle reçoit grâce à l'univers qu'elle va diffuser dans le public et aux illustrateurs qui vont travailler avec elle, est-ce qu'on n'a pas en premier l'appréhension de réduire finalement cet univers, parce qu'on sait tous qu'effectivement l'imagination, je dirais, suscitée par la littérature est bien plus vaste que celle suscitée par l'image. Donc lorsque l'on s'empare d'un personnage, est-ce que quand on va travailler sur ces personnages-là, est-ce qu'on n'a pas peur en premier de trop les réduire finalement ?
C'est le problème, parce que déjà quand on lit un roman, là nous étions deux en l'occurrence, hein, puisqu'il y a un scénariste, Jean-Jacques Le Bonheur, et puis moi qui adapte le roman. C'est vrai que la difficulté, c'est que finalement, on n'a pas lu la même chose, Jean-Charles et moi. Il a lu le roman, effectivement, moi aussi, mais on ne l'a pas appréhendé de la même manière. Forcément, comme le disait Robin, en fait, chaque fois qu'on va décrire quelque chose, chacun va avoir une vision différente. Donc, déjà, ça limite. Il y a déjà un premier conflit, on va dire, d'intérêt entre le scénariste et moi. C'est-à-dire qu'on, finalement, on n'a pas lu la même chose. Donc, ça crée un souci, en plus de ce que tu es en train de dire, effectivement. Parce que le problème de l'image, c'est qu'on va vous imposer justement un personnage en particulier, Burik par exemple. J'avais une vision, Jean-Charles avait une vision, et le descriptif de Robin qui était relativement succinct. D'ailleurs, c'est sa force, je trouve, au niveau de l'écriture, d'être très peu dans le descriptif, mais énormément dans la tête des personnages. Donc on les connaît très très bien, on a l'impression de les connaître très très bien, mais physiquement on les connaît très très peu en fait. Ou alors on sait que. Ils ont les cheveux longs, ils ont la barbe, ils ont la gueule de cheval. Ça se résume souvent à ça. On ne connaît pas très rarement leur âge. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est flippant un petit peu de donner finalement une vraie consistance physique à ces personnages, leur donner une carrure, etc. Là, c'est vraiment, je vais dire, mes choix. On va dire, voilà, je vous ai imposé une vision des personnages. Alors, des fois, ça cadre finalement très bien avec ce que vous aviez en tête, vous aussi. Des fois, pas du tout. Je pense par exemple au fou, où là, grosso modo, toutes les personnes ici présentes ont une version différente du fou. Mais en même temps, c'est très intéressant ça, d'arriver à vous montrer cette image. Et c'est encore plus intéressant quand globalement elle fait plus ou moins l'unanimité. Alors je ne sais pas si le fou a fait l'unanimité, mais n'empêche que voilà, c'était vraiment l'exemple typique d'un personnage qui était au niveau descriptif très très flou et qu'il a fallu quelque part imposer. D'ailleurs, ça a été tendu un petit peu avec le scénariste, voire avec l'éditrice, parce que justement, on n'avait pas du tout sur ce personnage-là, notamment la même vision. Voilà. C'est vraiment difficile, ce côté-là, d'arriver à imposer du fait qu'il y a très très peu de descriptifs, finalement. Voilà. Sachant en plus, connaissant l'évolution ensuite du flou, si on a parti pris trop, si on l'a
Belge, il y a une question quand même qui s'impose, c'est pourquoi tu ne collabores plus finalement à la série, pourquoi comment ça s'est fait ce changement de dessinateur, quel est ton processus d'une part de travail et pourquoi plusieurs dessinateurs sur ce roman.
Voilà, alors pour faire simple en fait, dans le cas présent, quand on a fait l'adaptation, comme je l'ai précisé, il y avait un scénariste. Donc en fait, c'est lui, techniquement, qui a adapté le roman. C'est lui qui a fait les coupes, qui a fait les ellipses, etc., qui a imposé des points de vue. C'est-à-dire que quand on travaille avec un scénariste, il y a, j'allais dire, autant de manières de travailler avec un scénariste que de binômes. Avec Jean-Charles, nous avions déjà commis 4 albums, donc on se connaissait un petit peu. Et donc Jean-Charles, les méthodes de travail, c'est grosso modo de me livrer 46 pages, un découpage sur 46 pages de l'album. Donc avec des indications scénographiques, plongée contre plongée, gros plan, plan large, etc. Avec les personnages, avec les dialogues, les narratifs, etc. Donc ce qui fait que, quelque part, ma marge de manœuvre est relativement restreinte, on va dire. Ça se résume effectivement à la création des personnages, des décors, etc. Mais tous les enjeux scénaristiques, les points de vue, les ellipses et tout, ont été arrêtés par Jean-Charles. Donc, techniquement, que j'adapte l'Assassin Royal, ou que je fasse les Princes d'Arclan avec Jean-Charles, comme j'avais fait avant, c'était exactement la même chose, en fait. Pour moi, ça n'a pas été un travail supplémentaire ou différent. Sauf que la vraie différence par rapport aux Princes d'Arclan, c'est que là, nous travaillons sur une base qui existe déjà, les romans que j'avais lus, moi, avant qu'on propose l'adaptation, parce que je suis gros lecteur de fantasy, un peu moyen, j'ai un peu moins de temps, malheureusement. Mais donc, j'avais déjà lu cette série-là. Et c'est vrai que c'est Jean-Charles qui m'a proposé donc, cette adaptation, parce que l'éditrice qui lançait une collection d'adaptation de romans lui avait proposé à lui. Et ensuite, par contre, lui m'a proposé. Et je vous avouerai que moi, la première réaction quand j'ai reçu son mail, c'était de lui répondre et lui dire super, génial, j'adore le roman et tout. Par contre, je voudrais l'adapter tout seul, sans toi. Puis le mail n'est jamais parti, il ne va pas partir à la poubelle, je l'ai juste effacé. Et voilà, donc il y a eu cette première frustration, on va dire. Et puis au fur et à mesure de la réalisation de l'album, le premier tome, ça s'est plus ou moins très bien passé, on va dire. Et puis à partir du deuxième tome, des ellipses un petit peu forcées, des parties pris auxquelles je n'adhérais pas forcément. Je lui ai demandé de revoir un peu sa copie. C'est une chose que je n'avais pas forcément fait avec lui, je l'avais fait sur le tome 4, ceci dit, des Princes d'Arclan. Mais là, c'était un peu plus drastique que de rajouter 4 pages pour boucler une histoire. Là, c'était vraiment de dire, maintenant, là, ton scénario, il y a des choses que je n'admets pas qu'on passe à l'as. Il faut vraiment que ça apparaisse dans l'album, parce que je pense, notamment, pour ceux qui se rappellent de la scène, où Fitz échoue au test de l'art avec Galen. Et Galen va le frapper, va le laisser quasiment mort en haut de la tour. Et Fitz est à deux doigts de se suicider. Et cette scène-là, d'un ado qui va se suicider, est très importante, d'autant plus que c'est aussi, il a échoué par rapport à lui, mais surtout par rapport au roi. Donc c'est vraiment quelque chose de fondateur, je trouve, du personnage. Et surtout, ça montre finalement jusqu'où Fitz est prêt à aller. Pour respecter la parole qu'il a donnée à son roi, tout simplement, quoi. C'est son serment d'allégeance, on va dire. Et là, cette scène qui sautait, j'ai dit non, je peux pas, moi, donc tu revois ta copie, sinon je dessine pas. Donc il a revu sa copie, mais du coup, ça a créé des tensions. Et une fois que moi j'ai fini mes 46 pages,
petite question pour Robin. Est-ce que lorsqu'un graphiste s'inspire de ton univers, sur les couvertures, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment une inspiration et disons, presque, ça pourrait être un hommage à ton univers. Mais dans le cas d'une bande dessinée ou par exemple d'un scénario de film, une adaptation cinéma ou autre, j'imagine qu'il y a beaucoup de sollicitations là-dessus. Lorsqu'un créateur s'empare de ton univers pour rescénariser, puisque là justement en bande dessinée on parle d'ellipses, on parle de choses qui peuvent être importantes dans le roman mais qui sont obligatoirement passées sous silence pour une adaptation en 46 planches ou en 1h30, comment est-ce que tu appréhendes ce nouveau produit? Comment est-ce que tu peux... Enfin, quelle est ta marge de tolérance vis-à-vis de cette réinterprétation de ton univers? Se lâcher prise. Est-ce que tu es en train de nous dire que l'on peut espérer une adaptation cinématographique, par exemple?
I leave that to my agent. I have no expertise in film. So if there were an offer, I would say to
sur des projets peut-être. Je sais que tu es très attaché à la famille. Est-ce qu'il y a, par exemple, de temps en temps, des envies de travailler sur des textes pour un public beaucoup plus jeune? Un livre illustré ou des contes à raconter le soir pour endormir ses enfants ou ses petits-enfants? Revenons un petit peu sur la technique de la bande dessinée. En fait, Laurent, par exemple, lorsque tu as travaillé sur l'univers donc, de l'Assassin Royal, en termes de choix de couleurs, par exemple, parce que je sais que sur d'autres albums, par exemple, celui que tu consacres à l'histoire de Arles, tu as fait un choix systématique de monochrome. Peut-être pourquoi, alors sans forcément. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ce projet aussi concernant ta ville natale, si j'ai bien compris. Pourquoi ce choix monochrome? Mais est-ce que ça aurait pu peut-être avoir aussi une présence dans un texte comme l'Assassin Royal, par exemple?
Ça aurait pu, effectivement. Alors, à la base, sur RLAT, donc Arles, c'est le grand latin de Calvinaire, en fait. C'est venu parce que, à la base, je travaillais avec un archéologue et on essaie d'être le plus près possible des découvertes archéologiques et le plus près possible des connaissances de l'époque sur l'univers romain. Ça ne voulait pas. Le problème, c'est qu'avec ce postulat de base, en fait, ça aurait fait une démétrie kitsch. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, la statuaire est peinte, les murs sont bariolés, beaucoup de couleurs très très vives et tout. Alors, le blanc n'existait pas parce qu'on n'avait pas d'agent blanchissant, en fait, à la Javel, c'est relativement récent. Les toiles étaient teintées à la craie, en fait. Hein. Donc, c'était relativement. Et autrement, effectivement, il y avait la soie qui prenait très bien la couleur. Bon, bref, tout ça pour dire que si on était parti sur des vraies couleurs, il aurait fallu qu'il y ait des couleurs de partout. Et ça, je ne me sentais pas très très à l'aise avec ça. Ça aurait pu très vite basculer sur un côté vraiment très kitsch. Le sépia, ça fait des années que je travaille cette technique-là en dédicace notamment. Et j'avais vraiment envie de faire un album en sépia avec éventuellement quelques touches de couleurs pour rehausser ça un petit peu. Vraiment marqué, je pense, voilà, par exemple, j'ai des gladiateurs et quelques combats avec, quand il y a du sang, par exemple, une bande de rouge, donc ça donne du volume, mais ça, sans agresser, on va dire. Et donc voilà, je voulais faire un album avec cette technique-là, et finalement, je trouvais que ça permettait bien pour éviter d'avoir voilà, cette statuaire peinte, etc. Et ça donnait une vraie, j'aurais tendance à dire, une image d'épinal, en fait, du temps passé, tout simplement. Voilà. Et effectivement, on aurait pu le faire sur l'Assassin Royal, étant donné que j'ai fait une série qui s'appelle Éric le Rouge, où là j'ai fait. c'est-à-dire de repasser le trait en noir, comme j'ai pu le faire sur la façon royale. Là, pour simplifier la technique, c'est que je fais mon crayonné classique en bleu ou en gris. Ensuite, je passe au pinceau, au feutre ou à la plume en noir, ce qu'on appelle l'ancrage. Je gomme, on scanne, et ensuite on envoie ça à un coloriste qui va mettre la couleur classiquement, qui va poser, j'allais dire, la lumière, les ombres.
Excuse-moi, tu dis classique, bon, mais c'est en numérique, hein, on
fait d'accord, numérique, en numérique, excusez-moi. Et c'est vrai que pour arrêter, et c'est une autre technique, c'est la même technique pour Eric le Rouge, où là, finalement, je reviens au traditionnel, où je pose les ombres au pinceau, etc. Et après, effectivement, on scanne en numérique, et on va passer la couleur. Et c'est vrai que moi, quelque part, j'aurais aimé mettre cette. Établir ce process plutôt. Après, c'est toujours pareil, c'est une discussion avec le scénariste, avec l'éditeur. C'est toujours un peu tendu. Je sais, par exemple, pour Eric le Rouge, il a fallu, pareil, je suis arrivé à 10 pages, et j'ai dit, ben, j'arrête tout si. Voilà, il n'y avait personne qui croyait sur cette technique-là, alors que beaucoup d'illustrateurs le font, on va dire, en BD. L'éditeur n'était pas très chaud, le scénariste n'était pas très chaud, jusqu'au moment où Lorenzo Thierry, mon coloriste, nous a renvoyé une première page, et là, tout le monde a dit « Amen, ouais, c'est génial, continuez ». Mais voilà, c'est un peu tendu des fois dans l'édition, en fait, où il faut arriver à imposer ses choix. Il ne faut pas avoir peur, j'allais dire, d'aller au combat, en fait. Je pense que j'ai eu peur effectivement sur l'Assassin Royal de le faire parce que il n'y avait pas forcément cette confiance. On a aussi besoin d'être confiant, j'allais dire, avec des gens avec qui on bosse. Là c'était voilà, je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû, ça aurait été peut-être encore mieux, je pense. C'est plus complexe, c'est quand le scénariste va nous dire, nous avons une armée de 2000 hommes d'un côté, 3000 hommes de l'autre côté, un grand champ de bataille, au fond de la mer avec 500 bateaux, un ciel nuageux, des éclairs, etc., les flèches qui partent dans tous les sens. Et là, vous savez, ça, c'est un peu de temps, deux minutes pour l'écrire, encore, je suis large, et moi j'en ai pour 15 jours à faire tout ça, voilà. Donc voilà, ça dépend vraiment du contenu des cases. En moyenne, c'est pour ça que je dis entre, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'il y a en fait. Voilà.
C'est fascinant, merci.
Donc une année pour chaque album.
Un peu moins, 8 mois, je l'ai dit, 8 à 10 mois, ça dépend en fait. Ça dépend voilà, de la difficulté. Je reviens sur Eric le Rouge, finalement, même en faisant le lavis, je me suis retrouvé à faire l'album, je pense, à 6 mois, parce que ça a été relativement vite, étant donné qu'il y avait beaucoup de scènes de marine, donc le drakkar en pleine mer, avec des icebergs, etc. Où ça, je l'ai fait finalement en couleur directe, très peu d'ancrage. Notamment, il y a une page en fait où j'ai mon petit drakkar qui doit faire 1,5 cm, l'entrée d'un fjord et tout, la mer un peu démontée, des gros icebergs, etc. Tout le monde, l'éditeur, en déposant plus la page, ils ont dit waouh! Je ne vous dirai jamais combien de temps j'ai mis, mais grosso modo, une petite matinée encore. J'ai pas été super rapide en fait. Mais voilà, parce que le dessin est arrivé tout très rapidement. Et ensuite, la réalisation, ça a été très pictural, on va dire, très peu d'ancrage, c'est-à-dire très peu de. Je n'ai pas repassé du tout à l'encre de Chine. Donc en fait, il y a eu un crayonné qui était relativement rapide. Le plus difficile a été de faire le drakkar en tout petit. Le reste, c'est les grands coups de crayon et après, avec pinceau à la vie et tout, pour faire un ciel nuageux, vraiment, voilà, faire des rochers, des icebergs et tout. Ça a été très rapide, en fait, à faire. A contrario, voilà, une scène de bataille avec d'un côté des vikings, de l'autre, je ne sais plus qui c'était, Saxon, voilà, avec. Là, j'ai changé complètement la vision du scénariste qui partait sur quatre cases classiques et puis la page en vis-à-vis, il déroulait son histoire, le viking qui partait. place. Et du coup, c'est une page qui m'a pris plus de 15 jours, mais que j'ai fait en parallèle des autres pages. C'est-à-dire que j'aime bien travailler 10, 15, des fois 20 pages en parallèle. Donc là, c'était une page que je faisais, on va dire, presque à mes moments perdus. Parce que je crois que j'avais compté, j'avais vraiment, je ne sais pas si c'était 150 ou 200 personnages différents sur la page. Si j'avais fait toute seule traite, j'étais bon à être interné. Donc j'ai fusé par petits morceaux sur les cassettes qui m'inspiraient, j'allais dire, en fin de journée. C'était une page que j'ai traînée longtemps, on va dire, sur ma desserte. Mais voilà, qui s'est fait tranquillement, on va dire. Je ne l'ai pas attaqué de front pendant 15 jours parce que c'était juste pas possible.
Lorsque tu parles de tes originaux, ça donne envie de les voir exposés ici, quand même. On a envie de voir les images.
On a essayé, mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Voilà, on en avait discuté, effectivement, avec mon ami.
Alors, après, on va passer peut-être le micro dans le public, parce que peut-être qu'il y aura des questions. Mais j'aimerais vous poser une question à tous les deux, puisqu'on parle d'adaptation, justement, d'un roman, d'un dessiné. On sait que les éditeurs, l'intention de l'éditeur, ce n'est pas forcément de faire plaisir à tout le monde, c'est aussi le fait de toucher d'autres publics, que ce soit des adaptations au cinéma ou en dessiné, donc en l'occurrence. Mais lorsqu'on voit des adaptations type Resident Evil, par exemple, au cinéma ou des choses comme ça, on se demande des fois peut-être quelle est vraiment la justification d'une adaptation. À quoi ça sert? Est-ce que ça ne va pas dénaturer l'œuvre première? Est-ce que vraiment, nous en tant que lecteur, est-ce qu'on a vraiment envie qu'un dessinateur, aussi doué soit-il, est-ce qu'on a vraiment envie qu'il nous impose sa vision du personnage ou ses erreurs ou quoi que ce soit? Donc, qu'est-ce que vous pensez-vous de l'adaptation en général, entre guillemets, d'une œuvre littéraire, que ce soit au cinéma, que ce soit bande dessinée, pas forcément en tant que créateur, mais du coup en tant que consommateur, en tant que spectateur, en tant que lecteur, qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation, de ce phénomène d'adaptation quasi systématique aujourd'hui d'une œuvre sur un autre média plus généraliste?
Alors, de mon point de vue, j'allais dire, en tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je préfère l'œuvre originale, on va dire, à l'adaptation. Du point de vue des éditeurs, c'est relativement logique, on va dire, puisque sur une série comme l'Assassin Royal, il y a quand même quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de lecteurs à la base, donc il y a un fort potentiel. ajouter par rapport à ça. Malgré ce que j'ai dit, effectivement, parfois l'adaptation, je trouve que l'adaptation est meilleure que le roman initial ou la nouvelle initiale. Je pense notamment à Blade Runner, par exemple. Je pense que vous l'avez vu. Peut-être que vous avez lu la nouvelle qui est adaptée, c'est le Aquarelle et les moutons électriques. Je ne sais plus, je ne me rappelle jamais du nom exact de la nouvelle. Mais qui est, pour moi, personnellement, l'adaptation est très très bonne de Ridley Scott. Et quelque part supérieure à la nouvelle, que je trouve un peu brouillonne, etc. Et où finalement, ils ont réussi à récupérer la quintessence, je trouve, de la nouvelle, et à vraiment faire quelque chose de finalement mieux, je trouve, que la nouvelle. C'est mon avis, après. Voilà.
It's an opinion.
C'est ce que j'ai dit.
J'ai aimé les deux.
Il nous reste quelques minutes pour deux questions.
Ma question était pour Robina. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des propositions d'adaptation cinématographique que vous auriez refusées ou que votre agent vous aurait dit que ce n'est pas une très bonne idée?
There has been interest, but to make a movie is a very complicated process. I would have to ask Pat. Thousands of books are optioned every year. Only a few actually survive the whole process to become a movie. I know of writers who optioned their books 10 years ago, and it is still grinding along through the process. So there have been, it has been optioned, I believe, twice.
C'est un processus très complexe que l'adaptation pour les cinémas. Tous les ans, il y a des milliers de livres qui font l'objet d'options. Et puis, une option peut être valide sur 10 ans, et puis après, on n'en entend plus parler. Donc, c'est un processus très long et très complexe. Moi, j'ai des amis avec qui on a versé qui ont eu des options de mise sur leur livre, et il n'en est rien ressorti. Le processus est très très long. Donc, on a déjà manifesté de l'intérêt pour certains de mes bouquins, mais il n'y a encore rien de concrétisé.
J'ai moi aussi une question pour Rolina. Si l'Assassin Royal devait être adapté en vidéo, est-ce que vous préféreriez que ce soit en film ou en série? Si ça devait être adapté.
To make that decision to say this is the best pathway to go. Perhaps with this individual it would be different answers for different producers.
Je ne sais pas, bien honnêtement, donc on revient à la confiance que j'ai en mon agent, et donc mon agent me dirait si c'est la voie à suivre maintenant, et donc, tout après est une question de confiance avec mon agent, mais aussi un éventuel réalisateur.
Il va falloir qu'on libère la salle quand même pour la table ronde suivante. Je vous remercie. Je voudrais remercier Robin, je voudrais remercier Laurent Sirac. Je voudrais aussi remercier notre